Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Malgré la Chine et l'Inde, l'économie des grandes puissances progresse à un rythme globalement insuffisant quand ce n'est pas la récession comme au Brésil. La situation et les inégalités sociales sont telles que les grands centres de décision ou de réflexion économique ont adopté un nouveau discours ces derniers mois. Écoutez ce que disait le 28 novembre dernier Jean-Louis Schneider, directeur adjoint du département économique de l'OCDE.
Les politiques monétaires ont déjà fait énormément pour soutenir l'activité, avec un succès pas nul, mais désormais on considère qu'elles ont atteint quasiment leurs limites. Et nous pensons que désormais les politiques budgétaires et les politiques structurelles doivent prendre le relais pour conforter la reprise.
Comme l'OCDE, le FMI ou l'Union européenne ont changé leur fusil d'épaule sur ce point essentiel. Jusqu'à présent, ces organismes poussaient les gouvernements à limiter leurs dépenses au maximum. Aujourd'hui, ils les appellent à recourir à ce qu'on appelle l'arme budgétaire, à se montrer dépensier. Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier prochain à la présidence des États-Unis, ne se fera d'ailleurs pas prier. Il veut relancer l'économie en impulsant des grands travaux. Écoutez ce qu'il disait le 9 novembre dernier, au lendemain de son élection.
We'll be forgotten no longer.
Les hommes et les femmes dans ce pays qui ont été oubliés par le passé ne seront plus les oubliés du système. Nous allons renouveler nos quartiers, refaire les tunnels, les écoles, les infrastructures, en somme, de notre pays, qui deviendront d'ailleurs incomparables par leur qualité. Et nous allons rendre les emplois des millions d'Américains ce faisant.
Des déclarations qui amènent à nous demander ce qu'est exactement une politique de relance budgétaire, si c'est une panacée, et pourquoi les grands bailleurs de fonds ont changé leur fusil d'épaule. Question que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Véronique Riche-Lorès.
Bonjour.
Véronique Riche-Lorès, vous êtes économiste indépendante, vous publiez des analyses économiques et financières que vous adressez régulièrement à vos clients. Dans l'une de ces dernières lettres, vous observez que le programme de dépenses en infrastructures annoncé par Donald Trump, qu'on vient d'entendre, a convaincu les investisseurs. Comment s'est traduite cette conviction jusqu'à présent ?
Ah, elle s'est surtout traduite par une envolée des marchés financiers et en particulier des indices boursiers américains, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a une propagation assez générale. Effectivement, l'idée c'est laquelle, c'est que finalement ce programme ou ce type de politique peut recréer un environnement qualifié de reflationniste, c'est-à-dire qu'on permettrait de sortir de cette situation où la problématique déflationniste a dominé ces dernières années.
Donc avant la relance budgétaire, la relance boursière, également avec nous dans ce studio Henri Sterdignac, bonjour.
Bonjour.
Henri Sterdignac, vous êtes conseiller scientifique à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, où vous travaillez beaucoup sur l'impact de la mondialisation. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés, qui vient de publier un nouveau livre, Sortir de l'impasse, aux éditions Les liens qui libèrent. Vous êtes donc plutôt classé à gauche. Est-ce que les politiques de relance budgétaire sont l'apanage de gouvernement de gauche? Est-ce que ce sont des politiques de gauche?
Non, c'est pas vraiment. On a dans l'histoire des politiques de relance budgétaire qui ont été faites par des gouvernements de droite. Donc c'est pas l'apanage des politiques de gauche, mais ça met fin, si on peut dire, à une période de triomphe du néolibéralisme. L'idée que pour relancer l'économie, il fallait réduire le poids de l'État, réduire les dépenses publiques, réduire les impôts, réduire les dépenses sociales, réduire les salaires. Et là, on a un tournant aussi bien au niveau de l'OCDE que de la Commission européenne qui commence à se dire « ben non, ça marche pas, donc il faut faire autre chose ».
Alors, au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons rejoindre Loïc Piala à Los Angeles, la Californie qui, paradoxalement, a voté Hillary Clinton, mais compte sur Donald Trump pour financer ses énormes besoins en infrastructure. À Berlin, Pascal Thibault nous dira à quel point les autorités allemandes sont réticentes à ces politiques de relance budgétaire. Enfin, à Paris, nous suivrons Thomas Giraudeau qui s'est rendu dans un laboratoire de recherche parisien, un laboratoire financé par de l'argent public. Henri Sterdyniak, pourquoi ces politiques de relance budgétaire ont-elles le vent en poupe aujourd'hui ? D'ailleurs, l'ont-elles ?
Oui, enfin, elles l'ont dans les discours. Hein. D'abord, on s'aperçoit que les stigmates de la crise persistent. Hein. On n'a pas retrouvé des taux d'emploi correspondant à ceux d'avant la crise. On a une croissance.
Donc la crise, celle de 2007-2008.
La crise de 2007-2008. On a une croissance qui est extrêmement, qui demeure modérée dans la zone euro. Et on a aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans la zone euro, on a des emplois industriels qui ont disparu, qui ne reviennent pas. Et du coup, on a beaucoup de, dans les classes populaires, on a un sentiment d'être les victimes de la mondialisation et du libéralisme. Donc, dans une première phase, on a les gouvernements, après la crise, ont effectivement accepté des hausses des déficits publics. Ensuite, on a eu une phase où la grande objectif a été de réduire les déficits publics, donc de réduire les dépenses publiques et, dans certains cas, d'augmenter les impôts, et avec l'idée qu'on pouvait accompagner ça d'une politique monétaire extrêmement expansionniste, les taux zéro, et puis aussi, on a eu tout un discours disant, ben, après tout, il n'y a qu'à faire des réformes structurelles, et ces réformes structurelles permettront de relancer l'économie malgré une politique budgétaire restrictive. Et comme ça n'a pas marché, on a maintenant le tournant qui consiste à dire, bon ben voilà, maintenant ben, il faut de nouveau retrouver de la politique budgétaire.
Véronique Richflores, ce que décrit Henri Sterdyniak, c'est une politique à l'aveuglette en quelque sorte, on n'arrête pas de changer de pied. Est-ce que ces politiques de relance budgétaire sont mieux indiquées, plus assurées de réussite?
Alors, politique à l'aveuglette, pas tout à fait, c'est une politique de l'offre, hein, poussée à l'extrême, hein, surtout depuis 2010 en réalité. Donc, effectivement, l'idée c'était que si on inondait l'économie de liquidités, on finirait bien par relancer l'investissement. Si on relançait l'investissement, il y aurait de l'emploi. Et si on faisait des efforts pour abaisser le niveau de rémunération ou le coût salarial des entreprises, ça permettrait effectivement de produire et d'exporter vers le reste du monde, en particulier le monde en développement, tous ces pays émergents, desquels on gardait surtout l'image de pays susceptibles de générer de nouvelles classes moyennes qui seraient friandes de ce qu'on pourrait leur vendre. Donc c'était ça le schéma. Hein. Et pour aller dans cette voie-là, il fallait ajouter des couches d'efforts, hein, avec cette idée également que finalement l'industrie, c'était plus très grave. On allait développer des économies qui fonctionneraient sur le tertiaire, les activités de service, et tout se passerait bien. La réalité aujourd'hui, c'est que, un, on prend conscience que sans industrie, les services se portent très mal, que quand on inonde le marché de liquidités, eh bien, les banques vont pas forcément prêter néanmoins aux plus défavorisés, qu'il y a des ratios de solvabilité, que quand on est déjà très endetté, eh bien, vous avez beau avoir des tas de liquidités, vous n'avez pas de prêt forcément ni l'appétit pour vous endetter de manière supplémentaire. Hein. Et puis surtout que la demande tant escomptée du reste du monde, en provenance de Chine ou d'Inde ou d'autres pays, n'est certainement pas au rendez-vous, ou qu'en tout cas on n'a pas les moyens de la capter. Donc effectivement, prise de conscience que ça marche pas, avec, je pense que ça a été le bilan de l'année 2016, hein, l'explosion aux yeux de tous, que le degré d'inégalité qui est résulté de ces politiques de rigueur pendant des années, est devenu non seulement inacceptable, mais une source d'instabilité politique. Et c'est bien ce qui fait bouger, me semble-t-il, le curseur hein, en faveur de politiques qui iraient vers quelque chose d'un peu plus équilibré. D'où cette évolution. C'est quand même assez intéressant d'entendre l'OCDE aujourd'hui prôner des politiques. Alors attention, on ne parle pas tout à fait de politique de relance. D'ailleurs, on parle de politique structurelle. Vous avez noté dans votre reportage... dans lequel on voit ce fourre-tout, une espèce de pudeur pour ne pas parler de politique de relance. Voilà. Mais on sent bien effectivement que le vent est en train de tourner en faveur de quelque chose un peu plus équilibré. Reste à savoir effectivement quelles recettes mises en place et les effets sur la croissance à venir.
Henri Sterdinière, qu'on entendait il y a quelques instants Donald Trump parler de construire des tunnels, de reconstruire des centres-villes, est-ce que c'est un bon exemple de ce qu'on appelle la relance budgétaire ?
Oui, c'est l'exemple typique. Hein. L'exemple typique, c'est quand même les grands travaux publics. Effectivement, on a un problème macroéconomique, mais on a aussi un problème microéconomique, si on peut dire. C'est qu'on a besoin de dépenses publiques. On a besoin de dépenses publiques, pas seulement pour des raisons macroéconomiques, mais tout simplement, on a besoin de routes. On a besoin de routes en bon état. On a besoin de centres urbains qui soient vivants, qui soient accueillants, qui soient sûrs. On a besoin d'écoles, on a besoin de crèches, tout ça, tout on a besoin d'énormément de dépenses publiques et en raison du néolibéralisme et des politiques d'austérité, tout ça, ça a été négligé aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il y a des plaintes importantes disant, les routes sont en mauvais état, les transports publics, les transports collectifs ont été négligés. Et donc, il y a cet aspect aussi qu'il faut pas négliger, c'est qu'on a besoin effectivement de dépenses publiques. Et ce, d'autant plus que, il y a la transition écologique qui est nécessaire. Il faut que les gens puissent vivre sans leur voiture. Il faut réduire les...
Alors pourquoi faire des routes si on doit vivre sans voiture?
Parce qu'il faut des transports collectifs. Il faut des transports collectifs. Il faut repenser notre mode de vie avec l'idée quand même que il faut faire des économies d'énergie, des économies de matières premières. Et pour ça, on a besoin de dépenses publiques. Et donc il y a un tournant qui là est difficile à prendre, mais qu'il va falloir prendre, qui est faut arrêter l'idée trop souvent entendue que les dépenses privées c'est sympathique et que les dépenses publiques c'est du gaspillage. Il faut voir que une infirmière, un professeur des écoles, c'est plus utile que une agence bancaire ou qu'un publicitaire. Et donc, il y a un tournant à prendre. Et ce tournant, bien sûr, il y a des arguments macroéconomiques et il y a également des arguments microéconomiques disant, on a besoin de dépenses publiques.
Alors, Donald Trump a dit beaucoup de choses pendant sa campagne et depuis son élection. Il prévoit, d'après ce qu'on peut lire, un budget de 550 milliards de dollars sur 10 ans pour une dépense totale nécessaire 6 fois plus importante, 3 000 milliards de dollars, pour des travaux publics. Et même en Californie, l'État le plus riche du pays, il y a un très gros besoin d'équipement public. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs signé Loïc Piala à Los Angeles.
3 ans que les bulldozers s'agitent au cœur du port de Long Beach. Ils préparent patiemment le terrain pour les 90 colonnes qui soutiendront le nouveau pont Gerald Desmond. Un ouvrage de près de 3 km de long et de plus de 150 mètres de haut, enjambant l'un des principaux ports de marchandises du pays.
Si vous regardez vers l'ouest, vous voyez que le pont monte très vite, très haut.
Steve McLennan supervise les travaux délicats. La construction se fait parallèlement au pont actuel, bâti dans les années 60.
This is a billion and a half dollar project.
C'est un projet $1.5 billion. L'objectif, c'est de remplacer le vieux Gerald Desmond Bridge avec un nouveau pont qui aura plus de voies pour accueillir plus de voitures. Et il sera aussi plus résistant aux tremblements de terre. C'est un pont où transitent 15% des marchandises livrées par voie maritime.
Une fois achevé, le pont deviendra un symbole de Los Angeles, mais il est déjà un exemple des besoins en infrastructure de la Californie. Colossaux. 40 km plus au nord, les trains de voyageurs défilent en gare de Los Angeles. Des trains lourds et lents. Le trajet LA San Francisco prend 12 heures. Alors la Californie construit une ligne à grande vitesse. Problème, il manque 43 des 65 milliards de dollars nécessaires au projet. L'État, qui a voté massivement pour Hillary Clinton, se retrouve donc à placer ses espoirs dans les promesses de Donald Trump. Martin Wax, professeur d'urbanisme à l'université UCLA.
Nous avons deux sénateurs puissants qui se battront pour que la Californie récupère la part qui lui revient des investissements fédéraux. Mais on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'administration Trump donne la priorité aux États qui ont voté Trump.
Les élus locaux se méfient de la poudre aux yeux. Jim Beal, sénateur de la Silicon Valley, milite pour une réparation d'un réseau routier vieillissant. Difficilement compatible avec le plan Trump, centré sur des investissements privés.
Ces structures privées vont vouloir un retour sur investissement à travers, par exemple, des routes à péage. Mais ces systèmes vont de pair avec des infrastructures nouvelles. Or, notre priorité doit être de réparer les routes que nous avons déjà. Dans un premier temps, nous allons donc essayer de comprendre un peu mieux ces propositions. Il ne vous a pas échappé que M. Trump se réserve le droit de se contredire.
L'État le plus riche de l'Union planche donc sur son propre plan d'investissement.
Un reportage signé Loïc Piala à Los Angeles. Henri Sterdignac, je vous voyais prendre des notes sur ce reportage. Qu'est-ce qu'il vous inspire ?
Non, deux idées. Voilà, la première, c'est que bien sûr, il faut des dépenses publiques, mais il faut des dépenses publiques bien ciblées. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, faut pas lancer des grands projets inutiles. Il faut effectivement que les projets s'inscrivent dans la transition écologique. Par exemple, voilà, il y a le problème de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En France, est-ce qu'il faut construire de nouveaux aéroports compte tenu de l'incertitude sur l'avenir du transport aérien? Donc il y a des choix à faire, hein. Il faut pas non plus avoir le mythe de les travaux publics c'est bien tandis que les dépenses fonctionnement c'est inutile.
Là en l'occurrence Donald Trump prévoit 20% de mise de départ par les investisseurs privés puis une couverture des emprunts qui seraient amenés à faire ces investisseurs privés par l'État. C'est un mécanisme viable, ça ?
Et ensuite, il y a le deuxième problème qui est-ce que effectivement on le fait par des investissements publics, sachant que du coup, il faut de l'emprunt public et voilà. Ou est-ce qu'on le fait par des partenariats publics-privés qui posent des problèmes spécifiques? Il faut rentabiliser l'investissement que font les investisseurs privés.
Et vous en pensez quoi, Véronique Richflores? C'est viable, ce mécanisme américain de faire financer les investissements publics par du privé?
C'est viable, ça ressemble quand même à la copie du plan Juncker en Europe, hein, c'est-à-dire qu'on l'État s'engage et par un engagement minime offre quelque part une garantie qui permet de démultiplier l'effort et de lever des fonds privés. Oui, c'est viable. Je dirais, enfin voilà, après il y a des contreparties effectivement, comme le disait tout à fait justement Henri, et bien, la contrepartie c'est qu'il faut que ces investissements soient rentables. Donc si vous voulez qu'une route soit rentable, il faut qu'elle soit payante. Et si vous voulez qu'elle soit entretenue et mise à jour, enfin, mise à niveau régulièrement, elle risque d'être de plus en plus payante. Et donc le service public devient effectivement potentiellement. Enfin, bon, après c'est une question d'organisation, de choix de société qui peut être contestée ou discutée. Moi, ce que je voudrais rappeler juste une chose
rapidement,
c'est que le Japon a fait 20 ans de dépenses d'infrastructures et le Japon est toujours en déflation. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de faire des ponts et des routes pour sortir un pays de la situation problématique dans laquelle il est.
Pardon. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission parce que la première est terminée. On se retrouve dans 3 minutes environ après un flash d'actualité. À tout à l'heure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, Écho d'ailleurs après le Flash Info avec Orange Monnaie. Orange. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Orange.
Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux politiques de relance budgétaire qui ont le vent en poupe en ce moment. Deux invités dans ce studio pour en parler, l'économiste indépendante Véronique Riche-Flores et Henri Sterdignac, conseiller scientifique à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu pourquoi le débat sur les relances budgétaires prenait tant d'ampleur et ce qu'en faisait, du moins on a commencé à l'évoquer, ce qu'en faisait Donald Trump, comment il pensait relancer l'économie américaine. Le président américain, le président élu, n'est pas le seul à vouloir des politiques de relance budgétaire. Au mois de juillet dernier, le FMI a appelé certains pays du G20 à relancer leurs dépenses publiques, comme le font l'OCDE ou la Commission européenne. Mais Véronique Riche-Flores, est-ce que tous ces gens parlent de la même chose? Est-ce que les propositions, les préconisations du FMI, de l'OCDE, de la Commission européenne sont les mêmes?
Écoutez, c'est assez difficile parce que souvent, il y a une certaine pudeur qui consiste à plutôt préférer les termes de politique structurelle, réforme structurelle, plutôt que de politique de relance. C'est assez amusant d'ailleurs de suivre, par exemple, les propos de Mario Draghi, le président de la BCE,
la Banque Centrale Européenne,
qui, on le voit bien, est prisonnier quelque part de ses marges de manœuvre et voudrait convaincre les gouvernements et la Commission européenne de changer un peu le cap, mais qui peut pas parler directement de politique de relance. Donc, il y va discrètement en disant il faudrait que les gouvernements soutiennent la politique de la BCE par des réformes structurelles. Enfin, avec toujours ce terme de réforme dans lequel on ne sait pas... Enfin, jusqu'à présent, on avait mis bien autre chose que des politiques de relance. Hein. Donc, il faut comprendre maintenant que le vent change un petit peu, mais effectivement, vous l'avez très bien perçu, tout ceci reste très flou. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un Donald Trump aux États-Unis qui nous promet un plan de dépenses en infrastructure, on va dire. On a le Japon qui est allé un peu plus loin également, une nouvelle fois, qui a rajouté une couche à ses plans de dépenses publiques, c'était cet été. Et puis, peut-être que la nouveauté vient d'Allemagne, où l'Allemagne a voté cet été un plan pendant 15 ans de dépenses publiques. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, l'Allemagne est le pays dans lequel les dépenses publiques ont été le plus écrasées, et surtout les investissements publics, avec un taux d'investissement public qui est ridiculement bas, qui a un coût économique, bien évidemment, en termes d'infrastructure, d'efficacité économique. Donc, on est en train de prendre conscience de cela, et ça bouge. Sauf que ça bouge dans un pays de l'Europe. Et il est vrai que ça bouge dans l'ensemble des pays, et que ce soit une politique probablement menée par la Commission européenne à l'égard de l'ensemble des pays européens pour redonner quelque chose, un peu de soutien, et remettre à niveau ces investissements publics, parce que il faut bien avoir en tête que les années dites de rigueur ont été une rigueur qui s'est faite uniquement, quasiment, sur les dépenses d'investissement public. Et c'est ça qu'on paye économiquement en partie aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup plus simple de décaler dans le temps un plan d'investissement public, un grand pari ou autre, parce qu'on est sous contrainte budgétaire. Et de fil en aiguille, vous vous retrouvez avec des pays qui sont en souffrance d'infrastructures publiques, avec un coût économique très important. Donc ça, c'est en train peut-être d'être reconsidéré. Maintenant, tout dépend de ce qu'on fait. Si on fait que des routes, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Si on délaisse complètement la problématique environnementale, qui devrait être, me semble-t-il, en toute logique, au cœur de ces problématiques de relance, parce que c'est bien là qu'on peut faire... La politique de relance, ça a du sens uniquement si on détruit pour reconstruire. C'est uniquement comme ça qu'on peut espérer recréer des leviers à la croissance économique, à l'emploi, à l'investissement privé, etc. Si c'est pour faire un petit peu à côté, parce qu'on reste quand même sur des ordres, même si les sommes paraissent très importantes, vous ramenez ça au produit intérieur brut américain ou allemand, on est sur du 0,5%, c'est très, très, très réduit en réalité, donc il faudrait un élan beaucoup plus large et sans doute beaucoup plus ambitieux en matière de changement des structures économiques.
Henri Sterdignac, la France est très endettée, environ 100% de son produit intérieur brut.
Oui, allez-y.
Bon, et son budget est en déficit de 3%, un peu plus, par an, ce qui fabrique bien sûr de l'endettement. Est-ce que ça, c'est pas déjà la relance budgétaire?
D'abord, il faut considérer l'ensemble de l'Europe. Donc, dans l'ensemble de l'Europe, on a pratiqué depuis 2010 des politiques de réduction déficit public, politique qui continue encore, alors que on est en situation de dépression et on a signé des traités budgétaires qui prévoient des objectifs complètement irréalisables de réduction des déficits et des dettes publiques. Hein, compte tenu de la situation, il est légitime que les pays européens aient des déficits publics de l'ordre de 3% du PIB, et il est ridicule, il est impossible.
Le PIB, c'est le produit intérieur brut.
Du produit intérieur brut. Et il est stupide de se donner comme objectif de descendre en dessous de ce niveau, parce que il se trouve qu'on a besoin de ce niveau de déficit pour soutenir l'activité économique. Et on voit que les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne ont des déficits supérieurs à 3% du PIB. Donc, il faut pas faire d'efforts maintenant, aujourd'hui. Faut arrêter les efforts. Et le problème de la Commission européenne, c'est que d'un côté, elle prétend mettre en œuvre le traité budgétaire et donc elle demande à certains pays de faire des efforts de rigueur, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, à la Grèce, bien sûr. Et puis de l'autre, elle reconnaît que globalement, il faudrait au contraire que la politique devienne expansionniste. Et donc, il y a un discours de la Commission qui est complètement incompréhensible, schizophrénique, où on dit globalement, il faut de la relance, mais chaque pays doit faire des politiques restrictives. Donc, pour s'en sauver, l'idée géniale, c'est de se tourner vers les deux pays qui ont des excédents extérieurs importants, c'est-à-dire l'Allemagne et les Pays-Bas. Et on dit à l'Allemagne et aux Pays-Bas, bah, écoutez, c'est vous qui devez faire l'essentiel des efforts. Ce qui, bon, globalement, on comprend la logique. Le problème, c'est que c'est des pays qui sont déjà au plein emploi et donc ils sont pas tentés, eux, de faire les efforts. Donc il y a un problème d'articulation en Europe qui est difficile à gérer.
Alors on va en parler de l'Allemagne vers la fin de cette émission. Voyons d'abord ce que fait la France. Une partie du budget de l'État est allée ces dernières années vers ce qu'on appelle des investissements d'avenir, près de 40 milliards d'euros budgétés à ce jour et depuis 2010, donc sous les présidents Sarkozy puis Hollande, dont 2 milliards injectés dans des laboratoires d'excellence. L'un de ces LABEX, c'est comme ça qu'on appelle ces laboratoires, se trouve à Paris dans le 18e arrondissement. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Thomas Giraudeau.
Carmen essaye de comparer un rat avec un autre modèle de rat en éliminant une molécule.
Lilia Abad est doctorante au LABEX Inflamex, un projet regroupant 11 laboratoires parisiens effectuant des recherches sur les maladies inflammatoires qui touchent un Français sur trois. Des affections comme le diabète, l'hépatite C ou l'arthrite, Lilia Abad étudie la néphropathie.
Donc c'est une maladie rénale qui touche justement les adultes jeunes. Donc cette maladie peut amener justement à des insuffisances rénales et pousser les patients à avoir par la suite des transplantations. On a eu justement une collaboration avec une boîte privée qui a fait un traitement et ça a donné de très très beaux résultats. C'est qu'on a réussi à éliminer le facteur qui induisait la maladie.
Depuis 2 ans, la thèse de Lilia Abad et donc son salaire sont payés par le LABEX, 1300 euros net par mois. Et elle n'est pas seule. Au total, 42 chercheurs, post-doctorants et doctorants sont ou ont été rémunérés grâce aux investissements d'avenir. Une enveloppe de 9 millions d'euros reçue par le LABEX Inflamex à sa création en 2011.
Moi, je suis Renato Montero, je suis professeur d'immunologie à Paris Diderot et je suis coordinateur de l'ABEX Inflamex.
Grâce au fonds Investissement d'Avenir, Renato Montero a aussi créé une formation spécifique sur les maladies inflammatoires. Un master en 2 ans où les meilleurs spécialistes étrangers viennent donner des cours. Autre dépense, le matériel et les machines nécessaires aux recherches. Renato Montero.
Nous avons eu besoin d'un cytomètre. C'est un appareil qui analyse les cellules du sang. Ça coûtait 250 000 euros et ces financements sont extrêmement important pour permettre aux différents chercheurs de pouvoir faire des découvertes.
Après 6 ans d'existence, le projet LABEX obtient de premiers résultats.
Il faut compter au moins 8 brevets qui ont été déjà déposés depuis la création d'Inflamex. Particulièrement, nous avons eu deux médicaments, un qui est dans le cancer et le deuxième qui est un nouveau anti-inflammatoire extrêmement révolutionnaire et qui est un médicament qui va être utile à plusieurs pathologies inflammatoires.
Ces découvertes ont plu à l'Agence nationale de la recherche, l'organe contrôlant chaque année l'utilisation des fonds investissement d'avenir par les 171 laboratoires d'excellence français. Olivier Cordin est le manager du Labex Inflamex.
En 2015, on a eu l'évaluation de mi-parcours, qui était un dossier un peu plus conséquent à fournir, avec une audition devant un jury international, qui là avait la possibilité soit éventuellement de couper les fonds si on n'avait rien fait, de diminuer les fonds ou de nous laisser continuer. Donc nous, on a une très bonne évaluation.
Comme pour tous les autres Labex, Inflamex a jusqu'en 2019 pour dépenser les fonds investissement d'avenir. Le projet pourrait ensuite être transformé en institut ou en fondation afin de bénéficier de financements privés et de compenser l'éventuel arrêt des subventions publiques.
Reportage signé Thomas Giraudeau dans les laboratoires d'excellence parisiens. C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des politiques de relance budgétaire avec deux invités, l'économiste indépendante Véronique Riche-Flores et Henri Sterdignac, conseiller scientifique à l'OFCE. Henri Sterdignac, ce financement de laboratoire, 171 laboratoires d'excellence en France, nous disait Thomas Giraudeau, c'est de la relance budgétaire ou c'est simplement de la politique publique bien pensée ?
Comme vous voulez. Bon, d'un côté, effectivement, on peut dire c'est de la relance budgétaire. Et de l'autre côté, bien sûr, ce sont des dépenses qui sont nécessaires pour des raisons microéconomiques. On a besoin d'avoir des dépenses importantes en éducation, que ce soit à tous les niveaux, et puis évidemment en recherche. Et évidemment, le risque de la relance budgétaire, c'est de dire, qu'on entend souvent, on va se polariser sur des dépenses d'investissement au sens strict, c'est-à-dire des infrastructures, en oubliant que effectivement, l'éducation, la recherche, c'est également de l'investissement. Et donc, il est tout à fait satisfaisant qu'une partie importante des fonds recueillis par le programme Investissement d'Avenir aille à l'éducation et à la recherche. Et puis, bien sûr, ces fonds doivent être pérennisés. C'est important. Et c'est important, même si effectivement il n'y a pas une rentabilité monétaire immédiate, c'est important que la recherche pharmaceutique soit en grande partie publique parce que ça permet d'avoir des médicaments à des coûts plus bas que ceux que peuvent fournir les laboratoires pharmaceutiques.
Véronique Riche-Flores, on entendait Thomas Giraudeau nous dire une quarantaine de chercheurs dans ce laboratoire. La grande question qui est derrière ces relances budgétaires, c'est la relance de l'économie et donc de l'emploi. Est-ce que toutes ces politiques de relance budgétaire ont abouti dans le passé systématiquement à des créations d'emplois massives ?
Alors bon, s'agissant des laboratoires d'excellence, le but n'est pas là de créer de l'emploi, en tout cas certainement pas de manière immédiate. Je pense que on est plutôt dans les politiques structurelles là, de développement de la recherche et d'encouragement du développement de la recherche. C'est à long terme. Et alors pour le coup, sur cet aspect-là de la reconnaissance française du positionnement en matière de recherche, je pense que les efforts, pas uniquement autour de ces expériences de laboratoire d'excellence, commence à payer. On le voit depuis plusieurs années, la France en matière de recherche a une reconnaissance et celle-ci commence à créer des emplois dans le domaine de l'innovation. Alors c'est peut-être un peu trop orienté du côté de l'innovation, mais là on voit que l'effort structurel commence à payer. Néanmoins, c'est pas comme ça qu'on va faire de la relance, c'est de la relance immédiate. On peut y compris.
Les grands travaux, par exemple ceux que préconise Trump ou ceux qui pourraient être envisagés ici, sont créateurs d'emplois à long terme.
Non, à long terme en général absolument pas. Rappelez-vous le plan de relance de, je sais plus, ça devait être 2009, Nicolas Sarkozy à l'époque, donc 30 milliards si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des ronds-points. Moi je me déplaçais souvent en Normandie à l'époque et j'ai compris effectivement qu'il y avait un plan de relance parce qu'il y avait des ronds-points tous les 2 kilomètres. Donc voilà, une fois que les ronds-points ont été faits, il y avait plus d'emplois et tout ceci n'a que des effets très ponctuels et finalement c'est un peu du gaspillage la plupart du temps. Donc il faut aller beaucoup beaucoup plus loin. D'abord dans l'ambition elle-même. Et si on prend les grands sujets aujourd'hui, prenons la problématique environnementale. L'environnement, c'est quoi? C'est bien sûr l'énergie, mais c'est pas que l'énergie. C'est la politique de la ville, c'est la politique des transports, hein, de l'innovation dans les transports publics. C'est la politique de recyclage, c'est y compris l'agriculture, le rapprochement des producteurs, des consommateurs. Donc vous avez là tout un ensemble qui pourrait être extrêmement cohérent, de politiques de relance structurelle qui nous prépare également à aborder l'avenir dans de meilleures conditions, et qui est pour l'instant qui semble absolument pas faire partie du débat, ce qui est un peu désolant, si pour ne pas dire davantage, parce qu'on a l'impression qu'on bricole, on continue à bricoler. Donc dans les temps où la conscience est avivée, on va bricoler un peu plus fort. En réalité, ce qu'on va probablement faire qui aura le plus d'impact là, c'est le développement à nouveau des dépenses de défense, parce que quand on fait de la défense, on fait de la recherche, et finalement
une la meilleure relance, c'est la guerre, Henri Cardignas.
C'est peut-être pas loin.
La meilleure défense, c'est
la meilleure relance, c'est la guerre.
Ça en fait partie. Je veux dire, on voit bien qu'il y a deux problèmes différents. Il y a un problème structurel. Le problème structurel, ça consiste à dire on a besoin de dépenses publiques. Voilà, on peut. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, la France, compte tenu de son rôle dans le monde, a besoin d'augmenter de manière importante ses dépenses militaires. Et on peut pas s'abstraire de cette obligation avec simplement l'idée, il faut réduire le niveau des dépenses publiques dans le PIB. C'est pas vrai. On a besoin de dépenses militaires, et dans un grand nombre de secteurs, la recherche, la santé, l'éducation, effectivement, les rythmes scolaires, on a besoin objectivement de plus de dépenses publiques. Et puis il y a un second problème, qui est un problème conjoncturel, consiste à dire nous sommes dans une situation économique en Europe où les taux d'intérêt sont déjà extrêmement bas, et donc dans cette situation il faut arrêter les politiques d'austérité, il ne faut pas demander aux pays d'augmenter les impôts et de baisser les dépenses publiques, il faut au contraire les inciter à faire des dépenses publiques et des dépenses sociales. Il y a également le cas des retraités qui, pas en France mais dans d'autres pays d'Europe, notamment en Allemagne, sont maintenant dans des situations difficiles. Ça, il faut l'éviter. Et donc l'intérêt de la politique budgétaire, il est double. C'est d'un côté, on en a besoin pour des raisons structurelles, et deuxièmement, on en a besoin pour des raisons conjoncturelles. Et puis aujourd'hui, on s'endette à des taux qui sont très bas, donc c'est le moment
de relancer
budgétairement. C'est le moment de faire des dépenses d'investissement public.
Un petit point d'histoire. La première grande relance budgétaire par des grands travaux, c'est quoi? C'est 1933, Franklin Roosevelt, le New Deal? Est-ce que c'est ça
Je vais vous dire ça, oui. Parce que sinon, on pourrait me dire, c'est Hitler qui était keynésien sans le savoir. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément une politique de gauche. Je veux dire, l'idée que effectivement, à un moment donné, quand un pays est en dépression, il faut des politiques de dépenses publiques, et qui malheureusement, dans certains cas, c'est des politiques, c'est de l'armement et c'est des infrastructures grandioses. À des fins militaires ou à des fins de prestige, comme. Ou à des fins, des grandes routes pour préparer des invasions, comme on a pu le voir en Allemagne au début des années 30, oui, ça fait partie de l'histoire tragique.
Alors restons en Europe. Parmi les nouveaux partisans de cette relance budgétaire, il y a maintenant, de manière timide et pas très claire, nous disiez-vous, la Commission européenne, qui se tourne vers les gouvernements allemands et hollandais, mais Berlin ne veut pas en entendre parler. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Thibault à Berlin, avec d'abord, face aux pressions européennes, la réponse du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble.
Les dépenses de l'État en Allemagne ont augmenté de 2,3% par an depuis 2005, soit à peine moins que dans l'ensemble de l'Europe. Et nos investissements ont augmenté de près de 4% par an, contre 0,7% en moyenne chez nos voisins. Les recommandations de la Commission ne s'adressent pas aux bons destinataires.
Berlin estime que la Commission sort de son rôle et devrait se contenter de faire respecter la discipline budgétaire en Europe. Une position largement partagée en Allemagne, mais avec des exceptions. Rainer Hoffmann, le président de la Confédération des syndicats, le DGB.
Cela serait préférable de ne pas comptabiliser les investissements pour juger le respect des engagements budgétaires. Nous voyons de façon critique le fait que l'Allemagne souhaite jouer en la matière les champions d'Europe pour le désendettement. Le rythme pratiqué n'est pas raisonnable et il faudrait mieux investir là où cela est nécessaire.
Les experts soulignent que l'Allemagne investit trop peu. Le président de l'Institut de conjoncture DIW de Berlin, Marcel Fratscher, estime que 100 milliards d'euros supplémentaires par an seraient nécessaires, qu'il s'agisse de dépenses publiques ou de celles des entreprises.
L'État investit trop peu et des progrès sont nécessaires. Les excédents budgétaires devraient être utilisés prioritairement pour des investissements et non pour des baisses d'impôts. Cette faiblesse concerne le secteur public comme le secteur privé. L'éducation pâtit de cette situation, le secteur social aussi comme les infrastructures.
L'Allemagne a déjà, il faut le dire, augmenté ses dépenses pour des secteurs d'avenir, mais l'année électorale 2017 crée des tentations, qu'il s'agisse de baisses d'impôts ou de mesures pour les retraités.
Reportage signé Pascal Thibault à Berlin. L'Allemagne dégage donc un fort excédent budgétaire et paradoxalement, c'est le pays qui s'oppose le plus à cette relance budgétaire. Pourquoi ? C'est un problème culturel, Véronique Riche-Laurès ?
Oui, on peut dire un problème culturel. Enfin, c'est surtout une erreur économique monstrueuse et durable. Et quand les erreurs durent trop longtemps, c'est jamais bon signe parce que, il y a quelque chose qui est assez malvenu. Je pense surtout que l'Allemagne a peur d'ouvrir, de donner le sentiment d'ouvrir les vannes pour les autres pays européens et de permettre une relâche budgétaire au niveau européen dans son ensemble. C'est d'ailleurs bien face à l'Allemagne que la Commission européenne se heurte, parce que sinon on aurait peut-être pu avancer un petit peu. Donc il y a un problème de répartition de l'équilibre. Ce que je voudrais dire, il y a trois petits points rapidement. Premièrement, on mentionne souvent l'Allemagne comme l'économie la plus dynamique qui a réussi, etc. L'exemple. Or aujourd'hui, il faut avoir en tête que on a la moitié de la croissance allemande qui provient précisément des dépenses publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du côté privé, en dépit d'une situation qui est souvent présentée comme une situation de réussite, eh bien la croissance allemande n'est pas plus élevée que la croissance française. On oscille aux alentours de 0,8% par an. Voilà. C'est pareil qu'en France, grosso modo. Ça montre bien que si on n'a pas le soutien public, en glissement. Mais si on enlève les 0,4 qui sont liés aux dépenses publiques, voilà, il nous reste à peu près la même part générée par le secteur privé. C'est un premier point qui permet de regarder l'Allemagne peut-être un petit peu différemment. Deuxième point, je pense qu'on a commis que beaucoup d'économistes et ont commis cette erreur qui consiste à dire il faut, puisque l'Allemagne a des marges de manœuvre, il faut que l'Allemagne relance et que les autres se serrent la ceinture. C'est une aberration, si ce n'est une aberration économique, en tout cas une aberration politique, parce que si on veut démanteler l'Europe, on continue comme ça. L'Allemagne relance et les autres se serrent la ceinture. L'Allemagne attire la main-d'œuvre du reste de l'Europe et on appauvrit le reste de l'Europe. Enfin, c'est ce qu'on a fait ces dernières années. On voit le résultat. On a eu une Europe qui est en voie d'implosion et je dirais que si on continue dans cette voie, ça risque de s'accélérer. Donc, il faut répartir absolument l'effort et si l'Allemagne a des marges de manœuvre, il faut bien sûr qu'elle les utilise, mais certainement pas en contrepartie de rigueur encore accentuée ailleurs. Donc on est là face à une situation effectivement où on a un blocage allemand et je pense que alors il y a une responsabilité partagée. Les Européens ont signé des accords, je pense à la règle d'or et ce qui allait avec cette promesse de réduction 0,5 et puis surtout ce qu'on avait moins communiqué à l'époque, c'est qu'il y avait un engagement de réduire les dettes à 60% du produit intérieur brut en 20 ans. Ce qui est une aberration, quel que soit le niveau de départ, parce que ça voudrait dire, par exemple, que l'Italie s'oblige à réduire sa dette publique, juste impensable, de 3 points de PIB par an. Et vous arrivez du coup dans une situation italienne qui est celle de l'Italie actuelle, qui rejette le référendum de Renzi parce que les populations n'en peuvent plus, parce que l'Italie est en train de mourir. Donc il faut absolument rééquilibrer les choses. Et ceci passe par des politiques qui sont pas seulement des politiques allemandes de relance, mais des politiques générales de relance européenne, financées le cas échéant par une banque centrale européenne, plutôt que continuer à acheter des obligations d'État à un rythme effréné et avec peu d'efficacité.
Henri Sterdyniak, quand la Banque Centrale Européenne rachète des obligations d'État, quand elle fait des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs, quand elle distribue de l'argent comme ça, est-ce que ça n'est pas de la relance ?
Ce qui est de la relance, c'est le fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas actuellement en Europe. Donc c'est un élément qui contribue, qui devrait contribuer à une meilleure situation économique. Ce qui devrait contribuer aussi, c'est le fait que l'euro soit relativement faible par rapport au dollar. Mais en sens inverse, on a le fait que l'Allemagne, les Pays-Bas ont choisi des politiques de compétitivité, d'accumulation d'excédents extérieurs qui déséquilibrent forcément l'Europe. Et donc on a une Europe qui est très difficilement gouvernable, puisque il y a des contradictions entre les pays, et ces contradictions en principe sont gérées par des accords, les traités budgétaires, les pactes de stabilité et de croissance, accords qui sont, comme l'a dit Prodi, complètement stupides parce que...
Romano Prodi, c'est l'ancien président du Conseil.
L'ancien président de la Commission s'est bien rendu compte que ces règles étaient stupides. On ne peut pas dire a priori, il faut que tous les pays aient à terme un déficit public pratiquement nul et une dette de l'ordre de 60% du PIB. On peut écrire ça dans un accord, mais ça n'a pas plus de sens que si on disait tous les Français doivent chausser du 42. Et donc ça coince. Donc on a quelque chose qui est mal géré. Bon, il est quand même heureux que la Commission commence un peu à mettre de l'eau dans le vin, reconnaisse qu'il faut un peu de politique expansionniste et il faut qu'elle aille au bout de sa logique.
Eh bien, nous allons suivre ça de près, mais en tout cas, pour l'instant, cette émission est terminée. Merci à vous deux, Véronique Riflores et Henri Sterdignac, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Guillaume Munier a réalisé et mise en onde cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques qui seront les dernières de l'année 2016.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs.